Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, Internet, le numérique et la recherche d'emploi. En France, par exemple, 3 demandeurs sur 4 se servent d'Internet pour chercher du travail. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de consulter des offres d'emploi, mais de devenir actif sur des sites spécialisés comme sur les réseaux sociaux. Et c'est là que tout se complique. Chercher un boulot grâce à Internet est un job à temps plein. Alors comment utiliser les bons mots-clés, comment se présenter, décrocher des entretiens? Bref, c'est toute une agilité, réactivité, un savoir-être à distance qu'il faut intégrer parfois sans même écrire. On va en discuter bien sûr avec nos invités en direct sur RFI ce matin. Bonjour Sylvia Di Pasquale.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de cadre emploi et de queljob.com, deux entreprises qui ont été pionnières dans ce domaine depuis déjà pas loin de 20 ans, non ?
Ah oui, on n'est pas loin de 20 ans, absolument. On pourrait apparaître comme des dinosaures, mais en fait, comme on innove tout le temps, ben voilà, on s'adapte au marché.
C'est ça, vous étiez déjà là au tout début d'Internet.
Oui, on était là au moment du Minitel, vous vous rendez compte?
On sera également en ligne, et j'espère physiquement, dans le studio avec Jean-Christophe Anna, qui est coincé dans les embouteillages, qui a eu un retard de train et qui a commencé comme chasseur de tête. Il a fondé RMS Touch pour former les recruteurs au numérique. Jean-Christophe Anna, est-ce que vous êtes bien au téléphone avec nous, en direct, avant de nous rejoindre dans le studio?
Oui, bonjour Emmanuel.
Jean-Christophe Anna, ça veut dire que finalement, parfois, les candidats aujourd'hui sont plus en avance que les recruteurs, les DRH eux-mêmes?
Alors, plus en avance, pas forcément. Les deux, hein, que ce soit les recruteurs ou les candidats, aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour recruter d'un côté, pour chercher un emploi de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous formons les recruteurs, mais nous intervenons également dans les universités, dans les écoles de commerce pour former les étudiants à l'utilisation de ces outils.
Ouais. Alors, depuis quelques temps, il existe des sites qui utilisent les algorithmes aussi pour faciliter la mise en relation entre un candidat et un employeur potentiel. On donnera la parole à un Matteu Mouhidine-Sev, qui est fondateur de Reminder, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle au service de l'emploi. Il nous expliquera comment des parcours professionnels d'êtres humains sont passés finalement à la moulinette de logiciels informatiques. Et c'est ce que l'on peut en attendre quand on est un candidat, un chercheur d'emploi. Et chez vous, les voisins, dites-nous si vous avez déjà décroché un job via Internet, via le numérique. Est-ce que tous ces nouveaux outils numériques peuvent freiner dans certains pays le règne du bras long ou du piston qui parfois vous décourage? En tout cas, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct à nos invités. Appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. Recherche d'emploi et Internet, 33 1 84 22 71 71. Quels sont les révolutions actuelles et à venir pour trouver un boulot? Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous lis le message de Diaby qui est à Bamako, parce que ça bouge pas mal sur le continent africain. Il nous dit « Moi, je ne me déplace plus pour postuler à un poste. À la place, je fais mes recherches via Internet. J'envoie mon dossier par mail. » Kader à Ouagadougou, Burkina, nous dit « Actuellement, avec l'évolution du numérique, Internet, c'est l'outil le plus fiable en ce qui concerne la recherche d'emploi et donc le recrutement. On le sait tous. » Brice à Yaoundé au Cameroun nous dit que l'Internet et son smartphone en particulier sont mes outils principaux pour chercher du travail. Je suis enregistrée sur pas mal de sites d'offres d'emploi. Évidemment, on a envie d'en discuter de vive voix avec vous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Je le disais, ça va très vite, y compris sur le continent africain, notamment évidemment chez les jeunes. Hein. Alors sur un continent jeune, ça va encore plus vite. En Guinée équatoriale, là aussi le numérique s'installe et modifie les habitudes des chercheurs d'emploi dans un pays quand même où le chômage, le sous-emploi avoisine les 30% et où la chute des prix du pétrole inquiète. Une femme, Yolanda Asumu, qui a vécu longtemps aux États-Unis, a créé il y a quelques mois une plateforme numérique, iCubeFarm.com, et qui met en relation les entreprises et les chercheurs d'emploi. L'accès est gratuit pour les entreprises, pour les chercheurs d'emploi. C'est vraiment tout nouveau, une nouvelle manière de chercher de l'emploi pour les Équato-Guinéens qui apprennent à connaître. Reportage de Fabien Essiane.
Mi nombre es Cristina Collins.
Mon nom est Cristina Collins.
Soy la encargada del portal.
Je suis en charge de la page web iCubeFarm.com et je m'occupe aussi d'aller à la rencontre des sociétés qui pourraient bénéficier de nos services. Sur notre site, ces sociétés peuvent s'enregistrer et publier leurs offres d'emploi sur Internet. De notre côté, nous leur garantissons des candidats qualifiés sur lesquels elles pourront compter.
Es como una bolsa de empleo.
Notre plateforme est comme une bourse de l'emploi. Quand un candidat arrive, on l'aide à créer un profil sur le site. Nous l'aidons à créer une adresse électronique si besoin et à s'enregistrer sur la page. Nous ne traitons pas de documents physiques. Tout se fait par courrier électronique chez nous. Par le passé, les candidats devaient déposer à droite, à gauche et en personne leur CV et lettre de motivation. Mais à présent, avec iCubeFarm, ils ont accès à des offres d'emploi sans avoir à se déplacer. En ce moment, nous avons 9 postes vacants sur notre portail numérique. Ce sont des postes d'administration ou d'ingénieur. Les candidats à ces postes doivent obligatoirement être titulaires de diplômes universitaires, comme la licence ou le master, parce que ce sont des postes de direction.
Ça fait presque 3 ans que je dépose les dossiers d'emploi un peu partout, ici à Malabo. Jusqu'ici, on fait appel au candidat, on lui fait passer un entretien, et s'il est retenu, il commence à travailler. Mais là, c'est différent. Toutes les informations s'obtiennent et se transmettent par Internet. C'est très moderne.
Bonjour, je suis Yolanda Asumu, la fondatrice du portail d'emploi numérique qui s'appelle icecubefarm.com. Nous sommes ici dans la salle où nous recevons les candidats. Nous leur offrons un accès gratuit à Internet pour leur démarche de recherche d'emploi. Ils peuvent créer leur profil sur le site et ajouter les documents nécessaires comme leur curriculum vitae et autres certificats. Le nom icecubefarm vient d'une expression anglaise qui signifie un tas de cubes. On a ajouté le i au début pour donner un sens numérique au projet. À ce jour, nous comptons 8 personnes qui ont pu obtenir un emploi grâce à nous. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'une de nos candidates a été retenue pour la dernière phase de son recrutement. Elle aurait passé avec brio l'entretien, donc vous voyez que nous sommes sur la bonne voie. Nous espérons que notre travail pourra contribuer à la réduction du chômage en Guinée équatoriale. Nous avons constaté que certains postes vacants n'étaient jamais pourvus, car l'information ne circulait pas. Et les entreprises devaient parfois recruter des gens dont le profit ne correspondait pas aux critères recherchés. Au mois de décembre prochain, nous organiserons une foire de l'entreprise. Nous donnerons la possibilité aux habitants du pays de se familiariser avec les entreprises locales. Nous avons d'ailleurs déjà en ligne sur notre page web notre guide des entreprises. Je voudrais dire aux jeunes équato-guinéens au chômage de ne pas perdre espoir. Nous connaissons leurs besoins et nous sommes là pour les aider, les soutenir et les accompagner afin qu'ils puissent obtenir un emploi demain ou après-demain.
Le numérique, une vraie révolution dans la recherche d'emploi aujourd'hui. Sylvia Di Pasquale, qu'est-ce qui a fondamentalement changé finalement en quelques années? Ça a été quoi les grandes étapes? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de bouger encore?
Alors, ce qui a changé fondamentalement, c'est que ça a décuplé. Le numérique a finalement décuplé les possibilités de rencontre entre candidats et recruteurs. Au tout début, ce n'était pas bien au point, hein, parce que quand on a passé les annonces papier sur le web...
C'est ça. Donc au départ, on avait des gens qui ne se rencontraient pas, qui n'avaient aucune possibilité de se connaître.
Voilà, et surtout, il n'y avait pas suffisamment de... publié dans la presse, ce n'était pas suffisant pour... ce n'était pas assez démocratique, je dirais. Voyez, alors que le numérique, finalement, ça a démocratisé la possibilité de rencontre. Parce qu'il n'y a pas que le piston, hein, comme on le dit souvent dans cette émission. Et le fait de publier des annonces visibles de tous sur le web a permis à des gens qui n'y avaient pas accès uniquement par le papier ou par les relations de pouvoir trouver, en tous les cas, chercher un job. Alors, donc, il y a eu plusieurs étapes dans cette digitalisation des recrutements. Il y a eu effectivement le passage sur le web. Ensuite, il y a eu aussi les réseaux sociaux qui sont apparus. Et puis, il y a eu étape...
C'est vraiment des communautés qui se nouent, en fait, avec des CV qui s'échangent, qui se transfèrent. C'est ça, le principe.
Oui, alors c'est surtout qu'on se rend visible à une communauté. C'est pas forcément orienté recrutement ou embauche, pas forcément. Hein. C'est faire du lien, se rendre visible et montrer ses capacités, ses compétences, etc. Alors après, il y a eu évidemment la révolution du mobile, et on sait qu'en Afrique, ça a été, ça a tout changé. En France, bien sûr aussi, en Europe, dans l'Occident en général, ce qui a permis en fait d'avoir vraiment sous la main, de pouvoir postuler en un clic, hein, quasiment, depuis son smartphone, qui, comme on le sait, est un double de nous-mêmes, enfin un prolongement de nous-mêmes. Et aujourd'hui, alors, je suis allée vite, hein, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a ces algorithmes, hein, dont on parle beaucoup, qui sont des petits agents, là, des petits robots qui vont permettre d'accélérer encore plus la mise en relation entre le candidat et le recruteur. Et je dirais même plus, qui va permettre au candidat d'être augmenté, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va lui faire des suggestions d'annonces maintenant. Il ne va pas seulement être là en train d'attendre ou de regarder les offres. On va carrément lui pousser des annonces qui peuvent lui correspondre, auxquelles il n'aurait pas pensé. Et elle est là, la révolution.
Alors, pendant que vous me parliez, pendant que vous écoutiez le reportage en Guinée équatoriale, vous étiez en même temps sur votre smartphone et vous disiez « Ah, bah justement, là, j'ai des exemples intéressants. » Parce que vous aussi, vous ne quittez plus votre smartphone.
Bah oui, je vis avec, que voulez-vous.
Oui, pour le sujet qui nous intéresse.
Je me demandais, parce qu'en préparant l'émission, je me disais « Tiens, il faudrait que je trouve un exemple de personne qui s'est fait recruter avec des tests très spéciaux, qui sont des tests, accrochez-vous, avec des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de passer un entretien, vous jouez à un jeu vidéo, on repère vos capacités, on repère vos bons réflexes, votre capacité d'anticipation, etc. Et donc là, voilà, il y a quelqu'un qui bosse chez Nissan, donc c'est un pilote Nissan qui a été recruté grâce aux jeux vidéo.
D'accord, mais voilà. Pas du tout pour travailler dans les jeux vidéo, on est
pas
bien d'accord,
tout.
Pour travailler dans
pour
l'industrie automobile.
Oui, absolument, il est pilote et puis il travaille aussi à la com, enfin voilà. Donc ce sont aussi des nouvelles manières de repérer les candidats.
Et de nouvelles agilités, ça veut dire que pour un candidat qui n'a jamais joué à des jeux vidéo, c'est mort. Ou
oui.
Pas forcément.
Oui, alors oui.
A priori, oui.
Mais vous voyez, les jeux vidéo, ils sont aussi utilisés par des industries beaucoup plus traditionnelles. Ils sont utilisés par la cosmétique, par des géants de la cosmétique, par l'agroalimentaire, parce que on a repéré que les capacités mentales, l'agilité mentale dont vous faites preuve quand vous jouez à des jeux vidéo est très utile pour l'entreprise.
Jean-Christophe Anna, vous qui êtes spécialiste de l'innovation dans le recrutement, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui.
Oui. Alors, on vit, c'est vrai, dans un monde où des employeurs jettent dans la poubelle des centaines de CV, je parle de la poubelle électronique, hein, bien sûr, sans même les avoir lus, tellement les candidats peuvent être nombreux pour un poste. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui, puisque vous formez des recruteurs à l'innovation dans le recrutement ? On parlait, par exemple, de ce repérage d'agilité via des jeux vidéo pour travailler dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Alors, l'innovation, elle est multiple aujourd'hui. Hein. Sylvia a fait un petit historique rapide. Effectivement, entre le web, le mobile, les serious games, le big data, l'intelligence artificielle, enfin, les révolutions se succèdent aujourd'hui à un rythme plus rapide. Pour les RH,
on a un petit problème de ligne téléphonique, Jean-Christophe Anna. Vous êtes peut-être dans un tunnel avant de nous rejoindre physiquement dans le studio. Et oui, le numérique ne peut pas tout, hein, finalement. Allez-y, on va retenter notre chance avec vous au téléphone. Non, ça a coupé. Alors, on essaye de vous rappeler. Oui, on parlait donc de toutes ces nouvelles manières pour repérer des agilités. Alors, ceci dit, on se met à la place des chercheurs d'emploi qui nous écoutent, là. Comment s'y retrouver ? On a les réseaux sociaux, on a les LinkedIn, on a les Viadeo, on a les Facebook, on a les Twitter, on a les applications pour smartphone qui donnent des conseils à la recherche d'emploi sur Internet. Comment s'y retrouver ?
Il faut tout utiliser. Moi, je travaille pour un job board, donc je peux peut-être partir de là. Certaines personnes ont l'impression que les job boards, c'est complètement has-been et qu'on est passé aux réseaux
les
sociaux,
etc. Spécialisés dans la recherche d'emploi.
Ouais, et Jean-Christophe Anna vous le dira, je pense qu'il partage la même opinion. Pas du tout, en fait, il ne faut pas opposer un outil à un autre. On a de la chance d'avoir tous ces outils à disposition, donc il faut y aller. Si vous êtes inscrit sur LinkedIn, c'est un très gros avantage parce que vous allez pouvoir vous rendre visible par rapport à votre réseau. Mais sur LinkedIn, vous ne mettez pas votre salaire. En revanche, sur un job board, vous pouvez indiquer votre salaire. C'est caché, hein, vous inquiétez pas, c'est dans les bases de données. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même utilisation. Sur un job board, quand vous allez postuler à une offre, on va tout de suite vous identifier comme étant un chercheur d'emploi actif. Ce qui n'est pas forcément le cas sur LinkedIn ou sur Viadeo. Donc ce sont, si vous voulez, ce sont des manières de traiter l'information sur chacun de ces médias qui est différente.
Donc il faut fonctionner en toile d'araignée,
absolument,
finalement.
Hein. Ouais. Le candidat doit être présent sur les job boards, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut réseauter. Aller sur des applications mobiles. Oui, mais vous savez, les applications mobiles, c'est bien souvent le prolongement de ces sites emploi. On n'a pas parlé des sites d'entreprise également. Vous avez des sites qui recrutent directement, sans passer par des intermédiaires. Alors là, ça dépend de leur maturité technologique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des sites où vous avez juste, vous rentrez votre CV ou alors même vous remplissez des champs, donc c'est un peu fastidieux. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que ça paraît plus facile, plus simple et plus rapide de passer sur des médias qui sont plus évolués. Nos médias vous permettent de postuler en un clic, donc profitons-en. Sur LinkedIn, sur Viadeo, il y a aussi des possibilités de postuler. Hein.
Postuler en un clic, toujours avec quand même l'idée d'un CV. Qu'est-ce qu'il reste de cette idée de base ?
Le CV est toujours là. En fait, le CV est toujours là. Quand je dis postuler en un clic, c'est parce que vous êtes inscrit sur le site, donc votre CV il est en base. Votre lettre de motivation, enfin votre mail de motivation, il est en base aussi, donc vous le récupérez automatiquement. Nous, quand vous postulez, vous avez un petit mail qui est déjà tapé. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton, effectivement, et ça permet de postuler beaucoup plus vite.
Comment le numérique et l'Internet révolutionnent la recherche d'emploi partout, sur tous les continents ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur qui nous appelle de Dakar. Bonjour Singar.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Soyez le bienvenu, je crois que vous avez trouvé un très bon job il y a un an grâce à votre profil sur un réseau social, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela. Donc là, comme je disais, j'exerce actuellement le meilleur emploi de mes 15 années de carrière dans la grande distribution.
Oui.
Et c'est grâce à mon profil qui était sur LinkedIn que j'ai été contacté par un cabinet de recrutement basé à Dubaï.
Oui.
Pour une multinationale allemande, en fait, qui cherchait un représentant en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous dis que ça a été assez bénéfique pour moi et peut-être certainement aussi pour l'agence, parce que j'imagine ce que serait le travail si je devais faire le terrain pour trouver le profil idéal.
Oui.
Donc voilà, je vous dis que
vous-même, vous étiez sénégalais au Sénégal déjà ?
Oui, je suis sénégalais, basé au Sénégal.
C'est ça, mais recruté par un cabinet par un chasseur de tête basé à Dubaï.
Basé à Dubaï, voilà, exactement.
Pour une multinationale allemande. D'accord, oui.
Voilà.
Ouais, il faut s'accrocher. Hein.
Belle illustration d'utilité.
Ouais. Absolument.
Mais, voilà, mais donc, vous cherchiez un travail à ce moment-là ou vous avez été chassé ?
Absolument, je cherchais un travail.
Ouais.
Donc voilà, et c'est un peu l'avantage des réseaux sociaux. Tu as l'habitude d'être informé régulièrement sur les propositions d'emploi.
Ouais.
Et tu as ton profil en ligne qui permet que tu as mis sur la ligne de mire, entre guillemets, des chasseurs de tête.
Donc, ouais. Voilà. Sans Internet, vous auriez pu vous faire connaître, vous auriez pu être au courant de ce poste, de cette multinationale allemande qui cherchait un spécialiste dans la grande distribution en Afrique de l'Ouest ?
Absolument pas, à moins que peut-être qu'ils aient publié dans un journal local ou truc. Donc je me dis que sans Internet ou sans la présence de mon profil sur le réseau social à partir duquel ils m'ont vu, je pense que je n'aurais jamais occupé ce poste-là actuellement. Et depuis lors même, depuis que j'ai changé de poste, j'ai encore reçu deux fois plus de propositions, beaucoup plus intéressantes les unes que les autres, absolument, beaucoup plus intéressantes les unes que les autres, mais bon. Donc voilà, juste pour dire que c'est un bon outil en fait, pour les candidats qui recherchent de l'emploi, mais ça facilite aussi le travail des recruteurs. Parce que, voilà, imaginez ce que ça devrait être d'aller se présenter localement. Pour
Mais bravo en tout cas, bravo Singer, merci beaucoup de nous avoir appelé en tout cas pour ce témoignage de Dakar. Jean-Christophe Anna, vous venez de nous rejoindre dans le studio, on va rendre l'antenne dans quelques secondes pour le flash, mais bien sûr on reprend juste après. Le numérique qui révolutionne la recherche d'emploi, on vient d'entendre un exemple flagrant de ce cadre recruté pour une multinationale allemande via un cabinet de chasseurs de tête basé à Dubaï et tout ça pour l'Afrique de l'Ouest.
Tout est possible aujourd'hui. On peut faire des recrutements à distance, on peut mener des entretiens
oui,
via Skype.
À condition d'être bien au courant des nouvelles technologies. Voilà. On se retrouve dans 3 minutes, restez avec nous surtout.
Mon ami, il y a une émission.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. La révolution numérique est en marche pour la recherche d'emploi. Ça fait déjà un moment, en quelques années, en fait, on est passé très vite des sites de petites annonces sur Internet à de vraies communautés sur les réseaux sociaux où les CV s'échangent, se transforment, se transfèrent. Et à partir d'un smartphone, on peut recevoir maintenant aussi en direct des conseils pour trouver du boulot. Sauf que tout cela demande aussi à changer de logiciel dans sa tête, réactivité, souplesse. Ça donne aussi parfois le sentiment aux demandeurs d'emploi qu'ils sont de simples marchandises et de leur côté les recruteurs sont aussi débordés par les demandes hein, et ne savent pas toujours comment faire des choix judicieux dans un monde de l'incertitude, dans un monde de l'inquiétude, mais qui connaît aussi des vrais progrès, notamment dans la transparence. On en discute avec vous, Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef de Cadre Emploi et de Quel Job.com, et Jean-Christophe Anna, ça y est, vous nous avez rejoint physiquement dans le studio. Vous êtes spécialiste de l'innovation numérique dans la recherche d'emploi. Vous avez fondé cette entreprise RMS Touch pour former les recruteurs au numérique. Pour eux aussi, ça va très vite, non ?
Ben, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que chaque nouvelle technologie arrive avec de plus en plus rapidement et est suivie d'une nouvelle révolution. Donc on a eu les sites emploi, puis enfin donc le web, puis les réseaux sociaux, maintenant le mobile et comme je le disais tout à l'heure et je crois que ça a été coupé, mais l'intelligence artificielle, le big data, enfin ça va de plus en plus vite. Donc c'est vrai qu'il faut des deux côtés, côté recruteur comme côté candidat, s'adapter à chacune de ces révolutions.
Appelez-nous justement si vous cherchez du boulot à partir de votre smartphone. Notre numéro de téléphone c'est toujours le même, 33 1 84 22 71 71. Bien sûr vous pouvez demander des conseils à nos invités. Si pour l'instant vous vous bornez à consulter des offres d'emploi, vous pouvez être en fait aujourd'hui beaucoup plus actif hein, soi-même. Alors depuis quelque temps, il existe des sites qui utilisent les algorithmes. Vous en parliez pour faciliter la mise en relation entre un candidat et un employeur potentiel. Je voudrais qu'on donne la parole à un jeune start-upper. Bonjour Mouhidine Sev.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, ouais. 23 ans, c'est bien cela ?
24 ans maintenant.
24, d'accord. Mauritanien, petit génie des maths, diplômé École Normale Supérieure Centrale Paris. Vous avez fondé Reminder, qui est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle au service de l'emploi. Au départ, vous avez vous-même été perplexe devant des milliers de petites annonces.
Oui, tout à fait. En fait, chez Reminder, ce qu'on utilise, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir guider le candidat dans sa recherche d'emploi, mais aussi le recruteur à pouvoir faire le choix face aux millions de possibilités, aux milliers de possibilités qui leur sont proposées.
Ouais.
Et effectivement, pour Reminder, ça remontait d'un constat personnel. C'était lors de ma première recherche de stage, j'étais complètement perdu. Moi, j'étais intéressé à la base par tout ce qui était mathématiques appliquées. Je voulais pas forcément faire de la finance. J'étais aussi intéressé par tout ce qui était informatique. Le milieu entre les deux, c'est tout ce qui est big data. Pour un Africain, c'est pas la première idée qui lui tombe à la tête en arrivant en France.
Oui.
Donc j'ai passé beaucoup de temps avant de trouver ce que je voulais vraiment. Et ce que je m'étais dit, que s'il y avait un système qui serait capable, à partir de l'analyse de plusieurs milliers, voire millions de parcours, me proposer quelque chose auquel je n'ai pas pensé et qui pourrait me correspondre, que ça pourrait me faire gagner énormément de temps.
En fait, vous êtes inspiré du modèle Netflix, hein, c'est ça, qui recommande des films à ses utilisateurs en fonction de leur goût personnel. D'ailleurs, goût personnel qu'eux-mêmes parfois ignorent, non ?
Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, Netflix est basé sur un algorithme de recommandation qui va aller regarder dans les différents choix d'autres utilisateurs pour proposer à l'utilisateur, lui recommander un film qui pourrait le correspondre, mais qu'il n'a pas encore consulté.
Ouais, mais comment ça peut fonctionner pour la recherche d'emploi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis?
Par rapport à la recherche d'emploi, nous, ce qu'on a fait chez Reminder, c'est qu'on a collectionné 200 millions de parcours à travers Internet. Donc, ces parcours, c'est des expériences, c'est des formations, c'est des compétences de personnes. Cette data en elle-même...
De 200 millions de parcours, donc en gros, des
200 millions.
C'est pas seulement des CV, hein.
Oui, tout à fait. C'est 200 millions de vous pouvez dire CV structurés, CV
qu'on a structuré. D'accord, de profils qui sont rentrés dans des bases de données. En quelle langue?
En fait, c'est dans toutes les langues. Donc, c'est en français, il y a du chinois, il y a de l'anglais. Aujourd'hui, les technologies d'intelligence artificielle, notamment en deep learning, ont permis à ces technologies d'être agnostiques à la langue. Donc, il est capable de traiter toutes les langues sans aucun problème.
D'accord. Donc, le profil est rentré dans cette base de données. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, en fait, le problème de la donnée, c'est qu'elle est muette. Elle ne parle pas d'elle-même. Et on a besoin de faire appel à de l'intelligence artificielle pour comprendre le pourquoi. Pourquoi une personne a transité d'un job à un autre? Pourquoi telle personne obtient tel job après sa diplomation. Ouais. Et cette intelligence artificielle, elle ira regarder dans les parcours des gens pour comprendre quelles sont les expériences qu'ils ont développées, quelles sont les compétences qu'ils ont développées au fur et à mesure de leur carrière, quelles sont les compétences transverses qu'elles ont acquises au fur et à mesure de leur carrière, afin de recommander à tout candidat une offre d'emploi qui pourrait lui correspondre.
Ça veut dire que vous faites gagner beaucoup de temps à des recruteurs?
Oui, tout à fait. Donc c'est à la fois pour le candidat, pour lui proposer des choix, mais aussi pour le recruteur, parce qu'aujourd'hui, le recruteur, avec la mondialisation, il va recevoir des CV de Chine, des CV qui arrivent d'Afrique, des CV qui arrivent de partout dans le monde. Et compte tenu de la diversité des parcours, il n'a pas la possibilité de suivre tous ces parcours-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de digérer ces millions de parcours pour faire gagner du temps aux recruteurs.
Alors évidemment, ces algorithmes, vous les connaissez bien tous les deux, Sylvia Di Pasquale, Jean-Christophe Anna.
Ces algorithmes, ils ont toujours existé. En fait, sur Cadre Emploi, on a depuis quelques temps, maintenant, quand on postule à une offre, d'autres offres similaires ou proches du poste recherché. Ce que le big data et l'intelligence artificielle...
Ce qu'on a sur LinkedIn aussi, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, sur LinkedIn aussi.
Coup, vous voyez arriver des offres parce qu'il y a des mots-clés qui sont communs avec votre profil.
Exactement.
C'est comme sur Netflix, en fait.
Exactement. Maintenant, ce qui va changer quand même, et où là, Reminder, cette application, se rapproche effectivement de Netflix, c'est qu'au fur et à mesure, les suggestions vont s'affiner de toute façon, mais aussi vont ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'avec le big data, avec l'ensemble des données qui ont été collectées et analysées, l'intelligence artificielle va proposer, enfin l'algorithme d'intelligence artificielle va proposer aux candidats des postes auxquels ils n'auraient pas songé. C'est-à-dire qu'en ayant analysé un certain nombre de parcours, parlé de 200 millions.
Vous avez des cas concrets, là.
Je vous donne un cas concret, je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui est diplômée d'une école de commerce et qui souhaite s'orienter vers des carrières dans le marketing, chef de produit, dans l'agroalimentaire. En fait, elle recherche plutôt des postes de chef de produit. Sauf que si elle s'adresse à Danone, dans l'agroalimentaire, et que Danone a recruté par le passé, des personnes chefs de produit dans le marketing issus d'HEC ou de telle ou autre école, et que ces personnes-là, au cours de leur carrière, ont finalement évolué vers des fonctions commerciales, vers des fonctions financières, vers des fonctions RH, qui sait, on va proposer à cette personne qu'à partir de son background, de son bagage en termes de formation, de diplôme et d'expérience professionnelle, peut-être qu'elle peut viser d'autres fonctions les toutes premières qu'elle avait en tête.
C'est ça. En fait, on va lui ouvrir l'esprit alors qu'elle-même avait fait une recherche peut-être un peu trop fermée.
Exactement.
Vous citez là que des exemples, franchement, dans l'élite.
Non, aujourd'hui, là où le big data, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, c'est l'ouverture du champ des possibles et c'est surtout peut-être la fin du clonage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France et ailleurs, on a l'habitude de recruter exactement le même profil, ce fameux mouton à cinq pattes, avec le même diplôme, la même expérience, le même nombre d'années d'expérience dans le même secteur d'activité. Là, avec le big data, on va pouvoir sortir de cette logique de clonage en allant identifier les caractéristiques qui permettent dans une entreprise à un profil, une personne, d'être plus performante que les autres membres d'une équipe et aller les chercher chez les candidats.
Mais ça concerne tous les secteurs, tous les métiers ?
Oui, pas ça concerne ça. Oui, ça, ça va finir par concerner tous les secteurs et tous les métiers. Alors moi, j'ai un exemple dans l'industrie. Vous savez, en ce moment, on cherche beaucoup de chaudronniers.
Oui.
Les chaudronniers, on n'en trouve pas. Il n'y en a plus en
et
France.
Et alors, en Afrique aussi, je peux vous dire.
En
sur
Afrique
certains
aussi,
chantiers.
Ouais, oui. Et vraiment, c'est pour des boîtes de l'aéronautique, dans le nautisme, si, etc., etc. Comment faire pour trouver des chaudronniers ? Alors, justement, le big data nous aide, en quelque sorte, puisqu'on va pouvoir suggérer aux recruteurs qui recherchaient des chaudronniers d'aller
chercher... Qui n'en trouvent pas.
Et qui n'en trouvent pas. D'aller chercher des gens qui ont peut-être 50, 60, 70% des compétences demandées pour être chaudronniers, parce qu'il y a une analyse qui est faite des véritables compétences, capacités, etc., et de leur proposer des candidats auxquels ils n'auraient pas pensé aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que le candidat, il essaye d'être actif, mais bon, lui, il va chercher chaudronnier, il ne va pas rien chercher d'autre. Et de l'autre côté, le recruteur, il va élargir son spectre pour prolonger ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure.
Oui, Linsev, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, tout à fait. En fait, pour rebondir sur la logique de clonage, en fait, c'est une logique aujourd'hui qui est poussée par les moteurs de recherche par mots-clés, qui sont très limitatifs et très restrictifs. Ils vont pousser le recruteur à saisir des mots-clés comme l'école, et donc éliminer toute une partie de la population des candidats. Il va également passer à côté de candidats comme des candidats atypiques ou des candidats internationaux. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, le big data, il apporte une réponse à cette problématique, c'est-à-dire qu'il va permettre d'ouvrir tous les champs des possibles. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, Moïdine, mais justement, les job boards, ils ont évolué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, tous n'en sont pas au même stade. Et on est sorti de cette logique de nomenclature pour passer à cette logique de big data. Et c'est ça qu'on ne sait pas forcément. Ce ne sont plus que des vitrines d'offres, ce ne sont plus seulement des vitrines d'offres, ce sont aussi des grosses machines avec plein d'algorithmes dedans qui permettent de faciliter cette rencontre. Donc je pense que votre vision, elle est peut-être parcellaire parce que les choses ont changé.
Enfin, évolue après.
Et ça évolue encore. Ouais, ça évolue encore. Ouais. On a mis du big data dans tous les sites en fait aujourd'hui.
Bien sûr.
Moïdine Sev, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Évidemment, il faudra nous tenir au courant de l'avancée de votre entreprise, Reminder, donc une start-up qui utilise l'intelligence artificielle au service de l'emploi. Je vous lis le message de Roméo, posté de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il nous dit, il y a un an, lorsque j'étais en dernière année universitaire, donc là, ça touche vraiment une marée de jeunes qui ne trouvent pas de travail à l'issue de leur diplôme. Il nous dit, moi, j'ai obtenu un travail grâce à Internet. C'est pas le premier entretien d'embauche que j'ai passé d'ailleurs pour trouver un emploi grâce à Internet. Si on baisse pas les bras, on peut toujours trouver un emploi qui nous correspond grâce au numérique. On a énormément de témoignages de jeunes qui disent, enfin qui se posent la question, est-ce que Internet finalement pourrait aujourd'hui redonner de la justice dans les processus de recrutement, redonner plus de transparence, moins d'opacité ? Jean-Christophe Hanna.
Alors, plus de transparence, c'est certain. On peut notamment citer les sites comme Glassdoor, comme Meilleure Entreprise en France, qui permettent à tout un chacun d'avoir une vision de l'entreprise de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte de verre ? Parce que finalement, ce sont les collaborateurs sous couvert d'anonymat qui peuvent s'exprimer sur le climat social, sur l'ambiance au travail, sur le niveau de rémunération à l'embauche, sur les perspectives d'évolution, sur le style de management. Enfin, voilà. Et les candidats qui peuvent eux-mêmes également évaluer la qualité du process de recrutement et la qualité de l'expérience qu'on leur a proposée. Donc ça, forcément, en termes de transparence, ça évolue. Moi, j'ai envie juste de rappeler quelque chose qui me semble absolument fondamental et qu'on n'a pas eu le temps encore d'évoquer, c'est que Internet ou pas Internet, dans une recherche d'emploi, il y a une philosophie, un état d'esprit à adopter. Soit on est passif et on attend que ça tombe tout cuit dans l'assiette. Et là, on peut attendre longtemps, quels que soient les outils qu'on utilise, même en étant présent sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Twitter, sur tout
et
ce que vous voulez.
Et quels que soient les pays où l'on
voilà.
vit.
Et avant même qu'Internet existe, et a fortiori aujourd'hui, toutes les personnes qui se sont dites « Ok, je prends mon destin en main, je passe à l'action, je fais du réseau, j'entreprends des démarches où je sors de chez moi, je vais à la rencontre des professionnels et je n'attends pas, en priant très fort chez moi, que le recruteur m'appelle. » Et là, tout est la différence. Et aujourd'hui, avec le potentiel extraordinaire des médias sociaux, on peut justement aller encore plus vite et toucher les recruteurs, toquer à leur porte directement. Mais si on attend, ça ne change rien d'être présent sur Internet.
On donne la parole aux auditeurs pour ce débat. La révolution du numérique dans la recherche d'emploi, est-ce que réellement Internet rend service aux demandeurs d'emploi à l'heure actuelle? Vous nous dites que ça ouvre tous les champs des possibles. Franck nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Franck.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes à Yaoundé, il faut couper la radio que j'entends en écho juste à côté de vous. Vous êtes, je crois que vous êtes président d'une ONG, c'est ça?
C'est ça, l'ONG Afrique Avenir. Je ne pense pas que c'est la radio, je crois que les cons c'est chez vous là-bas.
Alors, vous avez peut-être raison, c'est peut-être sur notre ligne téléphonique. Allez-y, poursuivez. Donc, Franck.
Voilà, je suis président exécutif de l'ONG Afrique Avenir, qui soutient justement les jeunes dans la recherche de l'emploi et la promotion des activités qui peuvent leur donner des revenus. Et nous sommes allés d'un constat simple, c'est qu'au Cameroun, même lorsque vous entendez que quelqu'un a un diplôme supérieur en informatique, il est incapable de retrouver un job ou bien de postuler en ligne. Je vous prends un exemple. À l'heure actuelle, l'Union africaine est en train de recruter sur les jeunes volontaires. Nous avons mis à disposition cette information, des jeunes Camerounais qui ont postulé. Mais les habitués ayant la peau dure, certains pensent toujours qu'il faut avoir des passes droits, ils vous rappellent au lieu de postuler. D'autres pensent avoir, enfin exigent d'entrer directement en contact avec le recruteur pour lui présenter les proximités avec telle ou telle personne. Donc, c'est un problème sérieux et pourtant, nous croyons effectivement que...
Oui, mais alors, là, ce que vous pointez, ce n'est pas une incapacité à utiliser Internet. C'est plutôt le fait qu'on ne veut pas croire que c'est ce qui va fonctionner pour être embauché. C'est différent, là. C'est un frein culturel. Ce n'est pas un frein technique de maîtrise technologique.
C'est un premier point. La maîtrise technologique y est aussi. Lorsque quelqu'un vous écrit son email avec des lettres majuscules, il sait très bien que ça ne va pas passer. Lorsqu'il est incapable d'écrire déjà son email, normalement, quand il veut postuler. Parce que vous voyez, quand nous avons une information, nous la mettons à disposition et les gens, on leur dit tout simplement, OK, donnez-nous votre email, nous allons vous envoyer le lien pour que vous puissiez postuler. Vous êtes incapable de lui envoyer le livre.
Mais ça, ce sont des candidats de quel âge, excusez-moi, mais là, aujourd'hui, les étudiants qui sont dans les universités, dans les écoles de commerce, etc., ils sont quand même extrêmement agiles avec cela sur le continent.
Et là, je vous parle des étudiants, justement, des gens qui ont des diplômes universitaires. Lorsque l'Union africaine recrute, c'est le niveau supérieur qui le recherche. Sur le programme spécifique des jeunes volontaires de l'Union africaine. C'est des universitaires, c'est des gens qui ont des diplômes, des qualifications universitaires. Alors, lorsque quelqu'un a ce diplôme-là, il est incapable de bien écrire son email. Rien que pour commencer par là. Je crois que c'est un problème.
Mais vous soulignez effectivement une vraie réalité. Et puis, effectivement, la croyance en un ancien système qui est qu'on va recruter celui que l'on connaît, celui qui vous est... recommandé. Sur la maîtrise technologique, ceci dit, il y a quand même un problème qui peut se poser aujourd'hui encore partout sur l'agilité technologique pour aller d'un réseau à un autre, dont Jean-Christophe Hanna.
Oui, moi je pense que c'est surtout un problème d'envie en fait, et de curiosité. En étant curieux et audacieux, tout est possible aujourd'hui, et c'est même pas qu'une question de génération, parce qu'on a ces fameuses générations Y, Z, même si c'est bullshit. Ces générations, ces jeunes aujourd'hui en fait, qui sont censés être nés avec un smartphone dans la main, il y en a qui sont handicapés du clavier ou handicapés du clavier digital, alors qu'il y a des quinquas, des personnes âgées qui sont très à l'aise avec les outils digitaux d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas forcément seulement une question de génération. Après, comme le soulignait la personne qui est intervenue à l'instant, en revanche, avoir une grammaire, un orthographe absolument irréprochable, ça, c'est aussi un souci pour beaucoup de Français en métropole. Et là, je pense que y a quelque chose à faire parce que, manifestement, le fait de s'exprimer sous forme de SMS ou en langage très court, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne font plus suffisamment attention attention à la syntaxe.
C'est ça, la langue ne disparaît pas. En même temps, Sylvia Di Pasquale, avant qu'on commence l'émission, vous aviez l'air de me dire que c'est plus seulement une question de langue, puisqu'on est tracé uniquement par sa visite sur des sites.
Oui, quand vous allez postuler sur un site, on vous trace. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous repère comme étant un candidat qui cherche un emploi.
Mais encore, faut-il savoir quoi dire de soi-même ?
Ah non, mais ça n'enlève pas ce que disait Jean-Christophe, hein, ça n'enlève pas tous les conseils qu'on a déjà dispensés dans cette émission, les conseils en matière de recherche d'emploi, en matière de CV, rédaction de CV, rédaction de mails de motivation, la politesse en entretien,
le numérique, etc. Ça n'enlève pas tout ça. Est-ce qu'il faut s'adapter à une nouvelle forme de savoir-être avec le numérique pour rechercher un emploi ?
Bah, comme le dit Sylvia, très justement, c'est les mêmes règles en fait qui s'appliquent. C'est pas parce qu'on est sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Twitter. Alors sur Twitter, on va aller plus rapidement à l'essentiel, on a un discours plus direct, sans doute, mais on ne peut pas non plus interpeller n'importe qui comme si c'était votre ami et que vous le connaissiez depuis très longtemps.
Attendez, le numérique a quand même changé un peu la façon de faire son CV.
C'est plus direct.
Je suis désolée,
ah non, mais le profil, hein, le
y a
profil
un titre,
en ligne,
c'est plus visuel. C'est...
Bien sûr.
Ça a un peu changé ça, oui, c'est vrai que les profils...
On peut redonner des conseils essentiels ?
Alors, oui, moi je pense que déjà le CV existe encore aujourd'hui. Donc moi j'ai envie de dire prioritairement, quand on est en recherche d'emploi, c'est avoir son CV sur tous les sites emploi, comme Cadre emploi, comme Quel job, comme d'autres. C'est d'avoir son CV en ligne pour se rendre visible des recruteurs. Ok, et répondre aux annonces, ça paraît juste évident. Mais après, ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc on a la possibilité avec LinkedIn, avec Viadeo, avec d'autres réseaux sociaux professionnels, d'avoir un profil. Un profil, c'est un CV multimédia, c'est un CV avec la possibilité d'avoir des recommandations, d'avoir aussi une bio, un résumé qui vous présente sous un angle un petit peu nouveau.
Il peut y avoir donc du visuel,
il peut y avoir des images. Voilà, sur LinkedIn par exemple, on peut mettre de la vidéo, on peut mettre une présentation PowerPoint. Donc on va illustrer son profil et du coup on va gagner en visibilité et on bénéficie d'un excellent référencement sur Google. Maintenant, ça ne suffit pas non plus puisqu'il faut derrière passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action et qu'on attend en étant sur LinkedIn comme on attend en étant sur un site emploi, il ne va rien se passer.
Et pour compléter sur l'écrit, c'est quand même un peu mon dada, effectivement, il faut avoir l'art de la synthèse. C'est super important. Parce que rédiger un profil, rédiger un CV, bien souvent, les candidats ne savent pas parler des expériences professionnelles qu'ils ont eues. Donc là, je n'ai pas assez de temps pour dire beaucoup de choses, mais
vous avez quelques minutes.
Mais quand vous décrivez
parler
un poste...
de ce que l'on sait faire, surtout.
Voilà. Et alors, ce qu'on sait faire, donc quand on doit décrire son poste, ce n'est pas une liste de tâches. J'arrête pas de le répéter, mais on ne doit pas faire une liste de tâches.
Vous voyez encore
on
ça doit... sur, ouais, sur beaucoup, vos sites d'emploi.
Beaucoup. Et ça ne suffit pas pour un recruteur pour se rendre compte de ce que vous savez faire, de vos capacités réelles. Donc il faut savoir travailler ça.
Mais là où on va sortir du déclaratif, c'est que alors, le CV ou le profil, quand il est saisi de manière assez simple, ça reste déclaratif. Là où le profil et l'utilisation d'Internet et des médias sociaux a un intérêt, c'est que l'on peut réellement démontrer que l'on a telle ou telle compétence. C'est-à-dire qu'en étant présent sur différents outils, en partageant du contenu de qualité dans son domaine d'expertise, sur un groupe LinkedIn, sur Twitter, en ayant soi-même utilisé LinkedIn Pulse pour produire du contenu ou en ayant, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, un blog, on va apparaître comme un expert dans son domaine, on va partager régulièrement du contenu, alors même sans avoir de blog. Hein. Le simple fait de retweeter, de relayer
ça,
du contenu de qualité...
Ça, c'est valable pour un pâtissier également.
Oui,
hein.
tout à fait. Bien
pas
sûr.
Seulement pour le,
mais,
les,
mais bien
les,
sûr,
les jobs
mais
de cadre.
Hein. On fait preuve aussi d'une curiosité pour son domaine d'expertise et on fait preuve aussi d'un relationnel, d'une maîtrise des outils dans la communication d'aujourd'hui qui permet également aujourd'hui, enfin, qui sont de vraies compétences en entreprise, quelles que soient les postes.
En fait, c'est une forme de culture Facebook, mais évidemment très utile. Militariste pour vendre ses compétences.
Oui, c'est bien vu.
Quels que soient les métiers.
Oui, c'est ça. Facebook a quand même une vertu, hein, qui est, mis à part le fait que ça titille le narcissisme, ça entraîne les gens à savoir parler d'eux, effectivement. Oui. Alors, pas de façon assez condensée, à mon goût, mais voilà.
Mais on est dans le marketing personnel, hein, finalement, sur ces outils. Aujourd'hui, chaque individu a une marque, de la même manière qu'une entreprise a une marque. On a une marque en étant présent sur Viadeo, sur LinkedIn, avec une photo, avec un titre, avec une bio, avec des arguments commerciaux qui sont ses compétences et ses mots-clés. Et on se vend aujourd'hui différemment. Et on est candidat à vie. Ça aussi, ça a changé.
Oui.
Avant, on était candidat par intermittence. On était candidat uniquement quand on postulait à une offre d'emploi, quand on était en recherche active. Aujourd'hui, comme on est présent sur LinkedIn, sur Viadeo, et que l'on est accessible à tout moment d'un recruteur, on peut à tout moment être sollicité pour un poste, pour une opportunité.
Alors,
donc on est candidat tout au long de sa vie.
On est candidat à vie, mais on peut faire évoluer sa propre marque.
Bien sûr.
Oui, et bon, notamment,
c'est même recommandé, non?
Et notamment le rêve de beaucoup de gens inassouvis qui est de changer de métier, changer de secteur, faire un nouveau métier, ce qui en France est très très complexe. En Afrique, je ne sais pas, mais en France, c'est de plus en plus compliqué.
Une question d'une auditrice qui est à Conakry en Guinée. Que faire lorsqu'on a passé 3 entretiens pour un job dans une même entreprise et qu'on n'a plus de nouvelles? Est-ce qu'il faut insister, les appeler, se déplacer? Et est-ce que justement, là, le numérique peut être une autre solution pour relancer le recruteur.
Ouais, ça dépend avec qui cette personne a eu des entretiens. Maintenant, c'est sûr que oui, on peut directement, grâce aux réseaux sociaux, notamment professionnels, on peut identifier un interlocuteur, on peut retrouver un interlocuteur et l'approcher directement alors qu'on n'avait pas nécessairement son mail. Donc ça permet aussi de se montrer. Maintenant, on peut contourner un cabinet de recrutement, on peut contourner un chargé de recherche dans une entreprise et s'adresser directement à l'opérationnel en utilisant également Viadeo, LinkedIn, Twitter.
C'est un rebelle, Jean-Christophe.
Oui.
Aujourd'hui, on est acteur de sa recherche d'emploi.
Le circuit court, c'est ça en fait.
Mais c'est l'audace qui prime et qui paye.
Je pense que tu as raison.
Mais après, il faut savoir que c'est très mal vu, y compris pour une offre d'emploi où un recruteur va recevoir via l'offre classique sur Internet
des milliers
de candidats, comment court-circuiter
Mais ceux qui vont ne pas se contenter de la candidature classique en répondant à l'offre, ont plus de chances que ceux qui envoient simplement leur CV. Ça, c'est...
On se distingue, c'est vrai. C'est vrai pour des boulots de commerciaux, notamment.
Mais pour tous les métiers aujourd'hui.
Dans les 20 ans à venir, on le dit, ça y est, maintenant on en est presque certain, 40% des emplois seront détruits à cause du numérique et personne ne sait vraiment ce qui va se passer sur les marchés de l'emploi. Est-ce que vous y voyez plus clair, justement, tous les deux?
Oui, on a notre bout de cristal, n'est-ce pas?
Je viens de consacrer une tribune à ce sujet, justement, parce que moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, que les candidats à l'élection présidentielle, que ce soit les anciens aux États-Unis et les futurs en France, n'évoquent absolument pas ce sujet. Or, tous les organismes, que ce soit l'Université d'Oxford, que ce soit Gartner, que ce soit Davos, enfin tous les organismes spécialisés, Roland Berger également, prédisent que entre 40 et 50% des emplois vont disparaître du fait de l'automatisation, du fait de la robotisation, qu'il va falloir réellement en prendre conscience et imaginer peut-être d'autres contrats, d'autres relations de travail, parce que si demain 40% de la population est
donc
au chômage,
le
chômage explose, on est tous demandeurs d'emploi.
Et on viendra tous vous demander des conseils. Vous, en tout cas, vous ne formez pas seulement les recruteurs à l'innovation, mais également les étudiants dans les écoles de commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devrait être une matière obligatoire, incontournable dans n'importe quelle école?
Bien sûr.
Après le lycée.
On continue.
Comment trouver un job, c'est ça?
Ben oui, parce qu'on continue de dire aux étudiants comment faire leur CV, comment faire leur lettre de motivation. La lettre de motivation, pour moi, elle est morte déjà aujourd'hui. Et le CV, même s'il a trouvé son prolongement avec les réseaux sociaux professionnels, la recherche d'emploi a évolué. Et aujourd'hui, on est encore sur une recherche très classique qui fonctionnait il y a 10 ans, 15 ans.
Jean-Christophe,
vous allez revenir
des recruteurs.
Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ce sujet.
Voilà, mal de
merci à tous les deux. Jean-Christophe Anna de RMS Touch et Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef de queljob.com et cadre emploi. À demain, les voisins.